Radio Kapi.
Oh, Kapi. Le journal présenté par Belinda Bosuma.
Retour au calme hier à Lengwe, territoire de Nyunzu dans la province de Tanganyika. C'est après la marche des creuseurs artisanaux. Ils manifestaient leur mécontentement après avoir été déguerpis de Kaoundou, une carrière d'exploitation de l'or en faveur de l'entreprise chinoise CMDD. Un étudiant, un ordinateur, c'est un projet du ministère de l'enseignement supérieur et universitaire lancé officiellement ce week-end à Kinshasa. Son objectif, autonomiser l'étudiant congolais dans ses recherches en utilisant les nouvelles technologies, explique le concepteur de ce projet. Et puis, Jean-Pierre Lacroix est l'invité de ce matin. Le chef des opérations de maintien de la paix de l'ONU vient de boucler sa visite de 5 jours en RDC. Dans une interview exclusive à Radio Kapi, il revient sur les grandes conclusions de sa mission au pays. À tous et à toutes, bonjour. Commençons par la province du Tanganyika. Le calme est revenu hier dimanche dans le groupement Lengwe, territoire de Nyunzu. C'est après la marche des creuseurs artisanaux. D'après des sources sur place, les creuseurs manifestaient leur mécontentement après avoir été déguerpis de Kaoundou, une carrière d'exploitation de l'or en faveur de l'entreprise chinoise CMDD. L'administrateur du territoire assistant de Nyunzu annonce qu'un terrain d'entente est déjà trouvé entre les deux parties. Paulin Munanga nous relate les faits.
Les creuseurs artisanaux scandaient des chansons de colère avec des bâtons à la main. Ils ont fait le tour du village Kaoundou, là où est située la carrière d'exploitation de l'or qui porte le même nom. Ils ont voulu ainsi montrer leur désapprobation à propos de leur déguerpissement de la carrière par des éléments FRDC en faveur de l'entreprise chinoise CMDD. Ils sont venus nous chasser de la carrière et pourtant l'administrateur du territoire était venu pour déterminer la limite. Les responsables des mines étaient là et même les chefs des groupements Lengwe et Makezi étaient aussi présents. Aujourd'hui, ils sont venus nous informer que la carrière est fermée. Contacté, l'administrateur assistant du territoire de Nyunzu qui s'est rendu sur place annonce que les creuseurs ont réclamé une indemnisation avant de quitter la carrière. Sabin Sabiti Ngongo.
J'étais sur place lorsque les jeunes gens étaient en train de marcher réclamant l'indemnisation. On a fait une réunion, on a pu trouver le montant qu'il faut indemniser aux creuseurs. On a donné quelques-uns hier et aujourd'hui on est en train de terminer pour les autres.
Signalons qu'auparavant, la société chinoise CMDD et les creuseurs artisanaux exploitaient de l'or dans la même carrière. Les deux parties étaient séparées par une limite. Kalemi Polemunanga, Radio Okapi.
En Ituri, l'association culturelle Lori exhorte le gouvernement à organiser sans délai un dialogue intercommunautaire qui rassemblera les Ituriens et Ituriennes autour d'une table afin de trouver une solution durable à la crise sécuritaire qui secoue la province depuis 2017. Dans une déclaration faite à la presse samedi, cette organisation qui représente la communauté Lendu souligne l'urgence de convier à ces discussions les leaders des groupes armés signataires des actes d'engagement de cessation des hostilités en Ituri. Le point avec Jean-Claude Loki.
Cette prise de parole publique intervient après une série d'attaques enregistrées ces dernières semaines, notamment dans le territoire de Djougou, où plusieurs personnes ont perdu la vie et d'importants dégâts matériels ont été constatés. Pourtant, il y a peu, cette organisation rappelle qu'une accalmie et un retour au vivre ensemble a été observé dans plusieurs localités de cette région. Face à la dégradation de la situation sécuritaire, l'association culturelle Lori émet une série de recommandations pour mettre fin à ce cycle de violence. Ferdinand Badego et son conseiller.
L'association culturelle Lori recommande aux différents protagonistes, gouvernement de la République démocratique du Congo, d'assurer une protection équitable à la population sans aucune distinction, de convoquer les groupes armés concernés à une nouvelle rencontre à Rwanda, d'évaluation et de consolidation de la cessation des hostilités, de libre circulation des personnes et de leurs biens, ainsi que du rétablissement de l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la province de l'Ituri.
Cette association appelle également la communauté internationale à travers la MONUSCO à soutenir les efforts du gouvernement, notamment dans la mise en œuvre du programme de désarmement des groupes armés en vue de rétablir une paix durable dans cette province. Bounia, Jean-Claude Lequi, Dile, Radio Kapi.
Nord Kivu, la société civile de Goma demande au gouvernement central d'apporter un appui efficace sur le plan militaire, logistique et politique aux institutions provinciales afin de défaire les ennemis et envahisseurs de la RDC. Dans une déclaration samedi, cette structure demande également la levée de l'état de siège qui a montré ses limites. La société civile de Goma dresse un tableau des points positifs et négatifs de la gouvernance du général-major Peter Chirimwami à la tête du Nord Kivu. Sifamaguru nous en parle.
Dans cette déclaration, la société civile note d'abord des avancées enregistrées pendant le règne du gouverneur Chirimwami, notamment la baisse des tensions et conflits ethniques et coutumiers. Elle note également le lancement de certains projets de développement et d'infrastructures, bien que certains ne respectent pas le calendrier d'exécution. Sur le plan négatif, la société civile dresse une longue liste des failles observées, l'enrichissement individuel de certaines autorités, mais aussi les Marion Gavo, son président, revient ici sur certains points.
La surmilitarisation des villes par des troupes étrangères nationales, les VDP, communément appelés ces groupes armés, les instructeurs blancs, les troupes congolaises engagées au front, la MONUSCO, la SADEC et les autres agences de sécurité. Hausse historique de cas de tuerie et kidnapping, les circulations incontrôlées d'armes comme recommandation de la population, de lever simplement l'état de siège, car n'a pas atteint ses objectifs, organiser les élections du gouverneur et que les militaires s'occupent uniquement des questions et stratégies de guerre dans les zones de combat.
Nous n'avons pas réussi à joindre le porte-parole du gouverneur pour réagir à ces bilans. Goma Sifamaguru, Radio Okapi.
En plus bref, le ministre d'État, ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Constant Mutamba, a libéré 729 détenus le samedi 21 septembre à la prison centrale de Makala à Kinshasa, information contenue dans le compte X du ministère de la Justice. Autre nouvelle, je vous l'ai dit dans les titres, un étudiant, un ordinateur, c'est l'intitulé d'un projet du ministère de l'enseignement supérieur et universitaire lancé officiellement samedi 21 septembre. La cérémonie a eu lieu à l'Institut supérieur des techniques appliquées, ISTA, Kinshasa. Ce projet de Matic Entreprise, une structure congolaise spécialisée dans l'assemblage des ordinateurs portables, s'organise avec les établissements de l'enseignement supérieur et universitaire, le but étant d'autonomiser l'étudiant congolais dans ses recherches en utilisant les nouvelles technologies. Reportage d'Étienne Lissumbo.
Une très belle initiative permet à l'étudiant de l'ISTA, qui est purement scientifique, à bien mener ses recherches et, n'est-ce pas, s'adapter à la technologie.
Lui, c'est Bukassa, président des étudiants de l'ISTA, bénéficiaire de ce projet. Les autorités académiques présentes à cette cérémonie se disent prêts à accompagner le projet. Le professeur Kaouli Bititi Anaclé, directeur général de l'ISTA, montre l'apport de cette initiative.
On ne peut plus concevoir la vie future sans le numérique. Or, à l'ISTA, c'est là où on apprend aux gens les basiques même du numérique. Doit savoir appliquer ce numérique.
Pour sa part, Alpha Ira Gibashonga, directeur général de Matic Enterprise, s'adressant aux étudiants, donne quelques modalités pour acquérir ces ordinateurs.
C'est pourquoi, vous allez voir, on a fait un programme qui est sur un paiement échelonné, qui est aussi l'avantage. Avec $25 le mois pendant 10 mois, ou $25, c'est juste à 250, vous payez comme vous voulez. Il y a une fiche de souscription, et puis il y a aussi la banque qui est derrière pour se rassurer que non, tout se passe en très bonne.
Enfin, Marie-Thérèse Sombo, ministre de l'Essu, a rappelé aux étudiants les objectifs de ce projet.
Ce projet vise l'inclusivité et l'équité car il accorde les mêmes chances à tous les étudiants sans aucune distinction.
Il est à noter que le projet Un étudiant, un ordinateur se poursuivra dans toutes les autres universités du pays.
À Kinshasa, le bâtiment administratif de la commune de Lancélé est débordé des fonctionnaires de l'État. Cet édifice en délabrement n'était réservé qu'aux différents services décentralisés du ministère de l'Intérieur. En ce jour, les services communaux de tous les ministères s'y sont installés et fonctionnent dans des conditions de travail déplorables et indignes pour une administration professionnelle. C'est un constat de Askenzig Biataoro qui s'est rendu à la commune de Lancélé.
La pléthore de fonctionnaires de l'État dans ce bâtiment de la commune de la Célé est une triste réalité reconnue par eux-mêmes les agents. La salle des réunions de la commune a été morcelée en plusieurs pièces de 2 mètres carrés et demi pour accueillir les différents services décentralisés de tous les ministères. D'après les témoignages recueillis sur place, 2 services distincts partagent un seul bureau de 2 mètres carrés. Un petit espace où sont coincés par exemple 26 agents de l'État devant s'échanger à chaque instant tant de chaises pour recevoir des visiteurs. À l'instar des services de la fonction publique actifs et passifs qui se disputent de place dans ces petits bureaux pour traiter des dossiers. Même situation pour les services de l'énergie et du tourisme. Difficile de comprendre comment sont traités les dossiers, car selon les indiscrétions, certains agents par manque d'espace s'installent même dans des couloirs pour traiter des dossiers administratifs pas moindres. Quelques agents sous anonymat disent que cette pléthore est due à l'affectation des agents de nouvelles unités à la commune. Au dire des autres fonctionnaires, cette situation perdure et ne trouve aucune solution malgré plusieurs rapports adressés à la hiérarchie.
Direction au Boma, nous sommes au Congo central. Ici, nous apprenons que le prix de la course en taxi passe de 500 francs à 1000 francs congolais. Les conducteurs des taxis avouent imposer ce prix à la population à la suite de l'augmentation du prix du litre d'essence. Une décision que n'accepte pas le maire de la ville de Boma au cours d'une réunion du conseil local de sécurité élargie aux associations des chauffeurs des taxis et motos de Boma. Senghor Boutouibi appelle au maintien du prix de départ. Nana Plurich Mambou, reportage.
Cette situation s'observe depuis mardi 17 septembre dans la ville portuaire et historique de Boma. Il faut payer le double de la course qui coûtait 500 francs. Cette hausse des prix de la course s'explique par l'augmentation du prix des litres d'essence vendu ces jours à 3000 francs chez les revendeurs communément appelés Kadhafi, alors que le prix d'un litre d'essence s'est négocié entre 2100 et 2300 francs. Pour ces revendeurs de carburant appelés Kadhafi, la variation du prix du litre est due à une pénurie de carburant observé dans la ville. Certaines sources indiquent cependant que la plupart des Kadhafi de Boma s'approvisionnent en Angola. Et récemment, selon le même source, le gouvernement angolais aurait imposé certaines restrictions sur l'importation des produits pétroliers, dont les carburants qui sortent de manière frauduleuse vers la RDC. Au cours de la réunion du Conseil de sécurité tenue vendredi dernier à Boma, l'autorité urbaine a appelé les représentants des associations des motocyclistes du Congo central et ceux de l'association des chauffeurs du Congo au maintien du prix de la course à 500 francs, étant donné que les prix dans les stations-service n'ont pas bougé. De plus, seul l'État congolais à travers ses services a le droit de fixer les prix des différents biens et services sur les marchés. Matadi, Nana Plurich Mambou, Radio Okapi.
Le Maniema est l'une des provinces qui a un taux élevé de décès maternels. Plusieurs causes à la base de cette situation, c'est notamment le manque de matériel adéquat dans les maternités. C'est le médecin coordonnateur du Programme national de santé de la reproduction qui l'a fait savoir à Radio Okapi. Docteur Michel Uchumba fait savoir par exemple que de janvier à août 2024, le Maniema a déjà enregistré 103 décès maternels. Pour résoudre tant soit peu ce problème, l'ASBEL Santé Rurale Sanru Maniema, dans le cadre de son projet Bomoi, dote le Programme national de santé de la reproduction des kits d'accouchement et une moto pour sa mobilité. Florence Kizalunga était présente lors de la remise. Voici son reportage.
Docteur Michel Uchumba, médecin coordonnateur du Programme national de santé de la reproduction, loue ses gestes de Sanri et fait savoir que ça va améliorer tant soit peu les taux de décès maternels et les indicateurs seront dans les bons.
C'était vraiment un besoin exprimé par les programmes parce que nous avons mené une supervision conjointe avec notre partenaire Sanri Bomoi et nous avons remarqué dans plusieurs établissements sanitaires, il n'y avait pas les kits d'accouchement. Alors, avec cette dotation de ces 60 kits d'accouchement, je crois que ça va nous aider à réduire les taux de décès maternels. Parce que vous savez que la province de Maniema, c'est une province qui a un taux élevé de décès maternels.
La réduction des taux de décès maternels, c'est ça aussi l'objectif de Sanri. Didier Mukendi, coordonnateur provincial.
On a déjà donné un premier lot de kits d'accouchement, mais il faut augmenter le nombre de kits d'accouchement. Parce que vous savez, une maternité peut avoir 2, 3, 4 accouchements par jour. Il ne faudrait pas avoir un kit visé. Mais c'est la réduction de l'incidence de la mortalité maternelle dans notre pays, dans la province de Maniema.
Sachez que cette dotation de Sanri est la deuxième du genre. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au Ghana, au moins une trentaine de manifestants ont été interpellés hier dans la capitale Accra. C'était lors d'un rassemblement pour dénoncer l'inaction et la corruption du gouvernement face à l'orpaillage illégal. Les organisateurs de cette manifestation dénoncent une grave entrave à la liberté de manifester. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky entame une visite aux États-Unis de plusieurs jours, occasion pour lui de présenter son plan pour la paix et de continuer à faire exister l'Ukraine sur la scène internationale, alors que cela fait plus de 2 ans et demi que le pays est en guerre totale contre la Russie.
L'invité.
Le secrétaire général adjoint de l'ONU en charge des opérations de maintien de la paix a bouclé vendredi sa visite de 5 jours en RDC. Dans une interview exclusive accordée à Radio Kapi, le chef des opérations de maintien de la paix revient sur les grandes conclusions de sa mission au pays. Jean-Pierre Lacroix est avec Gabriel Ouaménia.
Monsieur Jean-Pierre Lacroix, bonjour.
Bonjour.
Vous venez d'effectuer une visite au Nord Kivu et en Ituri, deux provinces affectées par l'insécurité et les conflits armés. Comment évaluez-vous la situation à ces jours?
Eh bien, clairement, et tout le monde le sait, la situation, tant sur le plan sécuritaire que humanitaire, est encore très préoccupante. J'ai eu l'occasion de le voir, en particulier lorsque je me suis rendu à Sake. On voit tous ces camps de personnes déplacées. J'ai eu aussi l'occasion de visiter l'Ituri et une zone, le territoire de Djougou. Il y a encore des conflits et notamment il y a eu récemment des affrontements. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a aussi des raisons d'espérer parce que il y a d'abord des efforts diplomatiques qui sont actifs. On parle du processus de Luanda sous la facilitation de l'Angola. Ce processus a déjà conduit à l'accord du cessez-le-feu du 30 juillet et tous mes interlocuteurs m'ont dit que, à la suite de cet accord, le niveau de violence a baissé dans la zone affectée par les offensives du M23. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de violence, mais ça a baissé. C'est un bon début. Et il faut évidemment que ce processus continue, enregistre de nouveaux progrès.
Au Nord Kivu, vous avez visité Mubambiro, ses quartiers généraux des différents contingents de la force onisienne et d'autres forces, notamment la SAMI-RDC et les FRDC. Comment appréciez-vous la collaboration entre ces différentes forces face à la menace du M23 appuyée par les Rwandais?
C'est une collaboration qui est en train de se développer parce que la SAMI-RDC n'a acquis que récemment un niveau d'effectif qui est presque conforme à l'objectif recherché. Et de notre côté, la MONUSCO n'a reçu que récemment du Conseil de sécurité un mandat pour renforcer son soutien, notamment dans les domaines logistiques, soutien médical, transport, échange de renseignements, soutien à la SAMI-RDC. Et donc, j'ai rencontré le Force Commander de la SAMI-RDC. Nous sommes résolus à faire avancer le plus vite possible cette coopération renforcée, à la concrétiser. La coopération avec les FRDC également se renforce et c'est une bonne chose parce que il faut un partenariat solide, il faut faire en sorte qu'il y ait une synergie entre ces différentes présences, que cette masse critique de présence en uniforme qui a les mêmes objectifs soit le mieux utilisée possible.
Michel Lacroix, à Kinshasa, vous avez eu des entretiens avec les autorités congolaises, de même vous avez aussi rencontré l'opposition, notamment Martin Fayulu, qui plaide pour un dialogue national pour faire face à l'agression à l'est du pays. Quelle est votre position à ce sujet?
S'agissant de la question du dialogue national, nous ne pouvons être que favorables d'une manière générale à la promotion du dialogue. Je pense aussi qu'en complément des efforts diplomatiques, dans le cadre du processus de Luanda, il sera indispensable que se renforce aussi un dialogue intercongolais, notamment pour faire avancer la question du désarmement, de la démobilisation, de la réintégration des combattants, des groupes armés. C'est un processus congolais. Donc,
parlant justement du processus de Luanda, M. Lacroix, plusieurs réunions ont déjà eu lieu. Un cessez-le-feu a été même décrété, souvent violé. Quelle pourrait être la contribution des Nations Unies pour un cessez-le-feu durable?
Effectivement, il y a encore trop de violence même si le cessez-le-feu du 30 juillet a conduit à une diminution du niveau de ces violences, la MONUSCO s'est engagée à soutenir le mécanisme de vérification et de suivi du cessez-le-feu qui est dirigé par un général Nassone, un général angolais. Et ce mécanisme va se renforcer, c'est-à-dire de vérifier le respect ou le non-respect du cessez-le-feu, de faire des rapports et donc de mettre la pression sur tous ceux qui doivent opérationnaliser le respect.
Voilà, peut-être avant de terminer, M. Lacroix, avec les autorités congolaises, et vous avez parlé certainement du désengagement ou retrait de la MONUSCO de la RDC. Pouvez-vous nous dire un mot à ceci?
Lorsque nous avons évoqué cette question avec les autorités, d'abord, ce que nous avons entendu de manière très répétée de la part des autorités, de manière insistante, c'est surtout des attentes quant au rôle de la MONUSCO et quant à la coopération entre la MONUSCO et les autorités congolaises pour la période à venir. Lorsque nous allons à la rencontre des populations qui bénéficient de la protection ou de la présence de la MONUSCO, nous n'entendons qu'un seul message, c'est des attentes et on nous demande de faire plus et de rester. On ne nous demande pas de partir. Je pense que c'est important de le dire parce qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui sont protégées par la MONUSCO et bien sûr avec nos collègues humanitaires qui font un travail exceptionnel.
Monsieur Jean-Pierre Lacroix, je vous remercie.
Merci beaucoup.
Le secrétaire général adjoint de l'ONU en charge du maintien de la paix répondait aux questions de Gabriel Ouaménia. Par ici prend fin ce journal coordonné par Jules Mister Bilanda, Pierre Diassino à la mise en onde. Merci de rester branché sur la fréquence de la paix.